Le festival Labiam, Biennale internationale d'art mural, revient cette année pour sa 7e édition du 17 mai au 20 juin 2025. Les nombreux artistes muraux invités auront une fois de plus l'occasion de peindre, coller, graffer sur les murs de la région, et principalement dans la métropole lilloise et le Denaisis. En amont du festival, nous avons pu discuter autour des nouveautés de l'édition avec Julien Prouveur, l'un des fondateurs du collectif Renard qui organise ce festival.
Et ben sur cette 7e édition de la Biennale, on a voulu un peu un retour aux sources. Tant par là qu'on a réinvité certains artistes qu'on avait déjà invités sur les premières éditions. Et aussi on va repeindre certains murs qui ont été peints en 2013 et en 2015. Donc par exemple sur l'île, il y a 6 murs qui vont être réalisés. Mais donc 4 qui sont des murs qu'on va repeindre, voilà, avec des nouveaux artistes. C'est une vraie nouveauté. Et en même temps, dès le départ, on s'était dit ce qui est rare et cher. Et du coup, tous les 6 ans, donc tous les 3 éditions de Biennale, on s'autorisera à repasser certains murs parce que voilà, ils ont un peu mal vécu ou parce qu'on trouve ça chouette de pouvoir les repeindre. Donc on joue le jeu à fond pour cette 7e édition. Alors sur le Denaisis, il y a un mur qui va être investi à Denain, justement, voilà, juste à côté du carrefour Denain. Et sur la métropole, c'est surtout à Lille que ça se passe. Il y a 2 murs au niveau de l'université de Moulins, donc l'arrière de la fac hein, qu'on avait peint. Il y en a 2 qui sont réinvestis. On réinvestit aussi un mur à Bois Blanc, pleine des Vachers, et un ici sur l'île sud, à l'angle de la rue du Faubourg d'Arras.
Est-ce que tu pourrais me raconter quel est l'objectif, revenir un peu aux prémices, ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer le festival au final?
On va faire un bon petit bond en arrière, hein. On va revenir quasiment une vingtaine d'années en arrière, où le collectif Renard n'existait pas encore, mais on avait déjà une asso avec beaucoup d'activistes là-dedans, notamment Monsieur Cana, qui avait été le fondateur de l'association Fin de Bombe, pour les fins de bombes de peinture. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, lui il a 20 ans, moi j'en ai 15, on est vraiment tout jeune, et on a une association plutôt socioculturelle qui fait des projets à l'étranger, notamment au Maroc, en Palestine et beaucoup dans les quartiers populaires. Il se trouve que le street art n'existait pas encore, le terme n'existait pas, on parlait de graffiti à l'époque et du coup il n'y avait pas vraiment cet engouement pour cet art-là. Et pendant 10 ans on fait finalement avec vraiment des bouts de ficelle, c'est le cas de le dire, vraiment quand on a un mur c'est le mur au bout du quartier avec des centres sociaux et l'animateur est content de nous filer 100 balles en disant ouais, j'ai réussi à vous gratter 100 balles. Bon bah ça à 15 ans ça fonctionne, à 25 ça, tu commences à te poser des questions et à te dire mais bon bah ça ne peut pas continuer comme ça. Et on se dit, je pense que le public, Pierre se dit, donc il s'appelle Pierre Thierry, faut lui rendre hommage, c'est lui qui a fondé le truc. On est quasiment en 2010 et il se dit, le public sera au rendez-vous. Et à l'époque, vers 2010, à part à Paris, il n'y a pas énormément de festivals d'art mural et d'art urbain en France. Et on se dit, ouais, le public sera prêt, sera au rendez-vous. Et donc, on dissout l'association Fin de Bombe. On reprend les mêmes personnes et on crée le collectif Renard, qui veut d'ailleurs dire Renard pour Renaissance de l'art. Parce qu'au final, on reprenait les mêmes personnes, mais par contre, tout de suite, on pense le festival. C'est-à-dire qu'on se dit, on va aller sur un axe vraiment culturel, plus que socioculturel comme avant. Dès 2011, on pense le festival et il arrive direct en 2013, avec la première édition. Et donc, à partir de là, la ligne de direction artistique qu'on a choisie et qu'on a gardée depuis maintenant 12 ans, 13 ans, c'est on va montrer à la fois des gens qui ont des univers très différents, des gens qui utilisent des techniques différentes, donc on va inviter des artistes pochoiristes, des gens qui font du collage, des gens qui peignent uniquement à la spray aérosol, d'autres qui font à l'acrylique, ceux qui font des techniques mixtes, donc vraiment avec des techniques différentes. Et puis on va aussi inviter à la fois des gens confirmés et puis la nouvelle génération. C'était ça le pari de départ en termes de direction artistique, avec une envie de rayonner pas uniquement sur une ville. C'est pour ça que la Biennale elle est à chaque fois sur une dizaine de villes du département. Il y avait surtout une envie de communiquer, de rencontrer le public. C'est-à-dire que l'avantage du graffiti, c'est que c'est dans la rue et donc c'est accessible à tous. Et ça, c'est quand même le fondement de notre association, c'est de faciliter l'accès à l'art pour tout le monde et par tout le monde.
Donc justement, quelles sont les réactions du public que vous avez pu avoir ?
Les retours, c'est souvent les artistes qui les ont au moment où ils peignent. Et l'avantage ou l'inconvénient, ça dépend des situations et du contexte, les réactions sont directes. Je m'explique, souvent en galerie quand même, on est un peu là, déjà tout le monde ne va pas en galerie ou à une expo, et puis les mots sont un peu retenus. Enfin voilà, nous c'est direct. Souvent, ah, bah, c'est moche ce que vous faites, mais ça fait une heure qu'on a commencé. Et à la fin, bah, c'est super, merci. C'est 9 fois sur 10, c'est ça. J'ai 2-3 souvenirs. J'ai encore un souvenir à Denain. On était devant une école maternelle. Il y a les ATSEM qui sortent. On commence à mettre du jaune sur le mur. Et tout de suite, les gens pensent que ça va être ça et que c'est fini. Alors que ça fait qu'une heure qu'on est là et qu'en fait, on va rester une semaine. Mais par contre, à la fin de la fresque, les gens sont super contents et sont ravis de notre passage. Donc globalement, les retours sont vachement positifs, parfois négatifs, souvent au début, avant. Parce que les gens voudraient que ça soit fini avant que ça soit commencé. Mais ça, c'est juste pas possible. Mais globalement, on a quand même peu de plaintes et on voit bien sur les réseaux maintenant, les gens nous suivent et on a quand même une communauté communauté qui trouve ça chouette de mettre de l'art dans l'espace public.
Dans les artistes qui sont invités, est-ce que ce sont des artistes connus ou alors il y a une véritable volonté de mettre en avant des artistes encore inconnus locaux ?
On a toujours fait la part belle aux locaux, mais là, aux artistes locaux, mais là encore plus. C'est un choix délibéré pour plusieurs raisons. À la fois parce que bon, on a des talents dans la région déjà, donc c'est bien de les mettre à l'honneur. Et on se dit que si nous on le fait pas, qui le fera ? Et la deuxième raison, c'est aussi l'aspect écologique des choses. De plus en plus, je pense, dans le milieu culturel, va se poser la question de l'empreinte carbone et d'inviter des gens de l'autre bout du monde pour venir une seule semaine faire une fresque. C'est vrai que le street art s'est mondialisé. Et on se retrouve avec à peu près 200 artistes qui sont invités partout dans le monde dans les plus gros festivals. Voilà, avec la course à toujours la plus grosse et la plus belle fresque. Et ça, c'est vrai qu'on a pris le parti un peu inverse cette année en invitant des gens qui ont du talent, bien évidemment, mais qui ne sont pas forcément reconnus mondialement. Donc ça nous fait vachement plaisir de revenir à ça, un peu à l'essence du début. Donc on a aussi invité des stars et tout, je ne dis pas qu'on n'en réinvitera pas, mais ce n'est pas l'idée en fait. Et nous, je pense que notre vocation, elle est ailleurs.
Un festival qui se veut donc à terme devenir un espace d'expression pour les artistes locaux bien plus qu'internationaux. Nous sommes toujours en train de parler du festival BIAM, Biennale Internationale d'Art Mural, initié par le collectif Renard, qui se tient dans la métropole lilloise et dans le Denaisy du 17 mai au 20 juin 2025. Dans la ville de Lourches, nous avons pu discuter du travail d'un des artistes du collectif, Daddy P80, qui intervenait du 19 au 21 mai dans le cadre du festival, sur un mur à côté de la poste. Il nous explique son implication et son ressenti en tant qu'artiste dans le festival. Donc, depuis combien de temps est-ce que vous intervenez sur le festival de la BIAM ?
Alors, je suis intervenu dès le premier jour, dès le premier mur, en fait. Je faisais partie du collectif... de l'association qui était à l'initiative du collectif, qui était l'association Fin de Bombe, qui a été remodifiée et qui s'est transformée en collectif Renard. Donc j'ai recroisé M. Cana, qui est un des fondateurs du collectif, en 2013, lors de la préparation d'un BIAM. Il m'en avait parlé et j'ai proposé mon aide naturellement. Et je me suis retrouvé à être embarqué dans cette folle aventure depuis le premier mur de la première biennale, dès le premier jour. En fait, j'ai monté les échafaudages. J'ai été toute la première BIAM, tous les jours mobilisé pour donner des coups de main. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé.
Est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu donc le graffiti que tu es en train de faire ?
Donc on m'a demandé d'intervenir sur ce mur. On m'a laissé carte blanche, comme on laisse carte blanche à tous les artistes qui sont invités à la BIAM. Et j'ai voulu représenter en fait mon petit personnage fétiche, qui est un petit bonhomme bombe qui s'appelle le personnage, qu'on peut retrouver sur les murs de Lille, de Roubaix, enfin un peu partout sur la métropole. Je voulais essayer... un mouvement qui me plaît beaucoup, mettre aussi en avant l'art nouveau. Donc il y aura un cadre de style un peu art nouveau et une composition florale en bas. Et le personnage, je voulais lui donner une certaine forme, une certaine dynamique, mais je ne savais pas quoi forcément lui mettre dans la main. Et c'est le premier jour, en fait, en discutant avec un des habitants de Lourches, où on discutait du passé minier de la ville. Mon grand-père était mineur aussi, je pensais lui faire tenir une fleur à la main. Et finalement, le résultat, en discutant avec un habitant et d'autres en passant, j'ai décidé de mettre une lampe de mineur en fait pour donner un peu plus de sens. On essaye toujours avec le collectif de donner du sens là où on intervient. Et là, avec la carte blanche que j'ai, c'est que j'avais mon idée générale, mais que j'ai trouvé le sens final de la fresque en intervenant, en ayant déjà commencé ma peinture.
Donc, est-ce que vous pourriez me décrire comment se passe le processus d'un graphe, les matériaux que vous employez, les bombes, etc.
Alors, au début, on met toujours une couche d'après, donc une bonne couche de peinture de façade extérieure, parce qu'on intervient toujours dans la rue, donc il faut que la peinture tienne dans le temps. Ensuite, pour la réalisation, vu que j'avais déjà un début de maquette, au lieu plutôt que faire un quadrillage comme à l'ancienne école, on utilise une nouvelle technique, enfin c'est une application qui s'appelle Snapseed, où on fait des repères sur le mur, on fait soit des écritures ou des motifs. Ensuite, on prend une photo du mur avec les repères qu'on a fait, on remet notre maquette en transparence dessus. Et du coup, ça nous aide, on sait par exemple que tel trait doit s'arrêter à tel endroit de telle lettre. Et donc forcément, les gens au début, les premiers jours, sont un peu étonnés déjà de voir un artiste intervenir avec une nacelle, avec des bombes de peinture, des pots de peinture. Et puis ils nous voient écrire des mots, des lettres, ça interloque un peu le public. Donc on fait beaucoup de médiation justement pour expliquer le processus.
Et du coup, qu'est-ce que le festival vous apporte en tant qu'artiste muraliste ?
Alors moi, j'ai la chance justement d'être au cœur de l'événement, de pouvoir rencontrer tous les artistes, de voir tous les différents processus, et de passer du temps avec tous les artistes, et artistiquement, ça m'apporte beaucoup, que ce soit sur les techniques, sur la vision des choses des différents artistes, Par exemple, la technique que j'utilise, puisqu'avant j'utilisais le quadrillage, cette technique que j'utilise maintenant qui est le Snapseed, c'est quelque chose que j'ai appris pendant la Biennale en rencontrant d'autres artistes. Donc c'est un enrichissement, on va dire, tous les deux ans, intérieur et artistiquement. Pour moi.
Qu'est-ce que signifie pour vous l'art mural globalement ? Donc pas que le graffiti, vraiment tout ce qu'englobe au final le festival.
Intervenir comme ça dans l'espace public, on a forcément un contact avec les gens qui passent, on casse un peu la routine des gens, on a beaucoup de temps pour faire de la médiation et c'est un enrichissement aussi humain, pas que artistique mais humain, pouvoir discuter avec les gens, casser certains stéréotypes, donner l'envie à beaucoup aussi de s'y mettre ou d'essayer ou en tout cas d'apprécier le travail de tous les artistes dont moi je fais partie aussi cette année pour cette édition.
Du 17 mai au 20 juin, vous pourrez donc retrouver les différentes œuvres réalisées et activités proposées dans les territoires de la métropole lilloise et du Denaisis sur le site internet collectifrenard.com ou bien sur la page Instagram du festival collectif-renard.
Un reportage de Aurore Eni pour Radio Boomerang.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Io qua a Pascolazzo ascolto Radio Campus su www.campuslille.com.
Les nouveaux gangsters, pas dans les balles populaires. Où sont les nouveaux gangsters, dans les partous des ministères. J'aime les vieilles légendes, des gangsters au bord salino font cracher leurs pétards dans des bars au coco. Mais où sont les nouveaux gangsters, les plaires des palagogo. Où sont les nouveaux gogos, les gangs des bandes à Bono. C'était le tango de ma grand-mère, le tango de mon grand-père. Le bon vieux tango des gangsters, de la fumée et des revolvers. Où sont les nouveaux bandits, pas chez les folles de minuit. Où sont les nouveaux bandits, dans les lupanards de Bercy. J'aime les vieilles histoires où l'on voit des bandits à gare fumer le cigare dans les trains et faire sauter les gares. Mais où sont les nouveaux bandits, les bandits des bars à gogo. Où sont les nouveaux dandys, les dandys des blazes à bozo. C'est le tango de ta mère, le tango de ta misère. Le tango du ministère, de l'économie et des finances. Car le nouveau gangster, le plus dangereux de tous, est le gangster qui s'ignore. Mercenaire de l'argent sale, brigand des ex-brigades rouges, pirate des Caraïbes à Hollywood, aigre fin, fils à papa, et grand chevalier d'industrie. À côté d'eux, Al Capone était une nonne. Et ma grand-mère, c'était Mad Alton. Les nouveaux escrocs, pas dans les fêtes des gogos. Où sont les nouveaux escrocs, là-bas dans les paradis fiscaux. J'aime les vieux coffres-forts qui valaient leur pesant d'or, que des brigands bienheureux faisaient sauter à petit feu. Mais où sont les chansons rétro, des accros de la coco, qui se payaient du blaireau à tout berzingue à go go go. C'est le tango des gangsters, de la finance et du ministère. C'est le tango des mercenaires, de la finance et du ministère. C'est le tango des gangsters, de la finance et du ministère. C'est le tango des mercenaires, de la grande orgie planétaire.
La Maison européenne des sciences de l'homme et de la société de Lille est une unité d'appui à la recherche créée en 2008. Elle fédère 43 laboratoires de recherche en région Hauts-de-France. Elle a organisé une conférence débat avec Christine Barr, historienne française spécialiste de l'histoire des femmes, du genre, du féminisme, pour son livre « Féminisme, 150 ans d'idées reçues ». Rencontre avec Christine Barr, historienne française spécialiste de l'histoire des femmes, du genre et du féminisme.
Eh bien, je faisais une conférence sur un livre que j'ai publié, « Féminisme, 150 ans d'idées reçues ».
Pourquoi avoir écrit ce livre ?
C'est un livre pour montrer tous les préjugés qu'on peut avoir sur le féminisme et montrer que ça fait longtemps que le féminisme souffre de cette d'image fausse, de représentation caricaturale, hostile. Il y a beaucoup d'hostilité au féminisme. Voilà, pour montrer que c'est une vieille histoire et que ça a toujours compliqué la vie des féministes d'être confrontées à ces difficultés.
Et pourquoi, à votre avis ?
Parce qu'il y a beaucoup de résistance dans notre société à l'égalité, à toutes les formes d'égalité, mais notamment à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le jour où on aura l'égalité, ça sera vraiment un changement révolutionnaire. On ne sera plus dans la même société, c'est que la société aura complètement changé parce que bon, l'égalité est un principe dans la Constitution en France depuis 1946, mais on sait bien que dans la vraie vie, les inégalités sont encore nombreuses. Il n'y a pas que les inégalités, il y a le mépris, il y a la violence, il y a les discriminations.
Et ce que vous disiez, c'est qu'on peut aussi avoir une lecture intersectionnelle.
Mais moi, je pense que c'est très important d'avoir une lecture intersectionnelle parce qu'il y a des femmes qui, tout en étant opprimées comme femmes, ont des privilèges en France parce qu'elles ne sont pas racisées. Et il faut prendre en compte, évidemment, la situation de double oppression, voire de triple ou de quadruple, parce qu'il y a des difficultés, des exclusions qui peuvent se cumuler en très grand nombre, la pauvreté, le handicap, etc. Et c'est un sujet auquel les féministes réfléchissent beaucoup. De plus en plus, je dirais, de mieux en mieux. Et comme par hasard, ce féminisme intersectionnel, il est très critiqué. On en a aussi des visions caricaturales. Il suffit de voir les unes, par exemple, d'un magazine comme Valeurs Actuelles, ou comment, par exemple, la ministre Najat Vallaud-Belkacem ou la ministre Christiane Taubira étaient présentées dans les médias. Elles sont victimes d'une double violence. Parce qu'elles sont femmes et qu'elles osent faire de la politique et aussi parce qu'elles sont, racisées.
À la fin de votre intervention, vous avez parlé des activités que vous aviez annexes et vous avez parlé d'une exposition. Et là, on a très bien senti que la pédagogie sur ces sujets-là, c'est important.
C'est très important, c'est important pour tous les âges, hein, mais l'école est très mal à l'aise avec le féminisme. Il y a la peur des réactions des parents, il y a le fait que beaucoup d'enseignantes et d'enseignants ne sont pas du tout formés sur ces questions-là. Et une des petites solutions, hein, humblement, ça serait d'avoir un musée des féminismes et de transmettre l'histoire des luttes pour l'émancipation des femmes avec toutes sortes de sujets possibles à tous les publics, avec des visites de classe, des discussions, des médiations, un programme culturel. Moi, j'ai envie qu'on aide les collèges, les lycées à intégrer cette question-là parce que les ados, les jeunes, y pensent beaucoup. Mais ils y pensent comme ils peuvent, mal. Et il y a beaucoup de violence autour de ça, beaucoup de méconnaissance. Et bon, c'est à quel point la société est divisée par rapport à cette question-là. Il y a ceux qui veulent qu'on n'en parle pas. Hein, la question n'existe pas. Et puis, moi, je pense que c'est sain que... On apprenne l'histoire, toute l'histoire, y compris cette histoire-là. Elle, elle est importante. On n'aurait pas la vie qu'on a aujourd'hui s'il n'y avait pas eu toutes ces féministes qui se sont battues pour l'égalité des salaires, pour les droits des femmes à travailler, pour le droit des femmes à divorcer, pour le droit des femmes à voter ou à être élues, etc. etc. C'est fabuleux déjà les changements qui ont eu lieu. On espère qu'il y en aura encore d'autres. Mais on ne peut pas être coupé comme ça de notre histoire. En ce moment, Trump, il bloque les financements de beaucoup de recherches. Hein. Et ben, il y a un mot qu'il a interdit. Il n'y aura pas de financement pour les projets qui ont le mot « historiquement ». Il s'en prend au genre, il s'en prend aux luttes antiracistes, et il s'en prend aussi à l'histoire. C'est subversif de faire de l'histoire. Parce qu'il faut faire toute l'histoire. Il n'y a pas de sujet tabou. Il faut faire toute l'histoire et la transmettre.
Oui, vous avez parlé aussi beaucoup de transmission et c'est pour la mémoire. C'est surtout ça.
Ben, on a besoin de... On est héritier, héritière d'une histoire mixte. C'est intéressant de savoir comment nos grands-mères, nos arrière-grands-mères vivaient. Voilà, la société est mixte. Il faut une histoire mixte. C'est tout simple. Ça a l'air tout simple comme ça. Mais on en est encore très, très loin. Très, très loin. La voix des femmes, elle n'est pas tellement entendue dans notre société. Et la voix des femmes du passé non plus, alors qu'elles sont géniales. C'est extraordinaire, tout ce que les femmes ont pu réfléchir, écrire au XIXe siècle, au XXe siècle. Et pas seulement en France. Tout à l'heure, on a parlé du Maroc. Brièvement, le féminisme, ce n'est pas seulement français. Ça existe partout, absolument partout. C'est pas forcément les mêmes dates, la même chronologie. C'est pas forcément les mêmes revendications partout, évidemment. Mais c'est au-delà des religions, au-delà des partis, au-delà des pays. C'est quelque chose de global, l'émancipation des femmes.
Peut-être nous rappeler votre livre, le titre, la maison d'édition, oui. Et où est-ce qu'on peut le trouver?
Alors, ça s'appelle « Féminisme, 150 ans d'idées reçues ». C'est un livre de poche paru au Cavalier Bleu. Et on peut le commander, je pense, dans toutes les bonnes librairies. Et c'est écrit d'une manière, j'espère, assez accessible.
Denis Vérac, maître de conférence à l'Université de Lille.
J'animais la conférence avec Christine Barr, donc je lui posais quelques questions autour de son livre afin qu'elle puisse nous retracer l'histoire des féminismes et de l'antiféminisme, puisque c'est de ça dont il est question dans son travail d'analyse et de décortiquage des idées reçues autour du féminisme.
Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
C'était... Après, moi, je connais bien les travaux de Christine Barr pour les avoir lus, pour l'avoir déjà entendu. Mais c'est une approche qui est très intéressante de pouvoir croiser à la fois justement l'histoire du féminisme et de l'antiféminisme, de voir que ce sont deux histoires qui sont imbriquées. Et puis cette démarche de l'histoire longue, là aussi de l'histoire dans la longue durée, je pense que c'est aussi intéressant pour voir évidemment les transformations et les transformations qui prennent du temps, mais aussi pour voir les permanences de ces représentations, de ces idées reçues. Donc ça, c'est très riche d'avoir cette approche sur 150 ans.
Oui, on a vu les évolutions, on a vu aussi les mécanismes qui étaient à l'œuvre. Mais moi, j'étais surpris, c'est que on n'a aucun moment employé le mot pouvoir.
On a employé le mot domination et oppression. Mais effectivement, disons que la domination et l'oppression, c'est le pouvoir exercé par les hommes sur les femmes, en l'occurrence ici. Mais on a parlé de domination.
Et ce qui était aussi intéressant, c'était de voir dans son évolution ce qui l'a freiné à un moment donné.
Le féminisme, oui, c'est sûr que les réactions ou les résistances des hommes à la remise en cause de leur domination, de leur pouvoir, est effectivement un frein important au développement, ou en tout cas, disons, aux transformations de la société dans le sens que défendent les féminismes. Ouais.
Donc il y a une vraie histoire qui est très longue et on peut quand même se poser la question à savoir pourquoi on en est encore là aujourd'hui.
Ah bah ça c'est une vaste question. C'est une question difficile à laquelle on peut en partie répondre par l'exercice du pouvoir et l'exercice de la domination par les résistances d'une partie de la société et d'une partie des hommes à ces revendications. Christine Barre évoquait tout à l'heure, là aussi, dans cette permanence des discours de masculinistes ou autour de cette idée que la masculinité serait constamment en crise ou mise en cause par le féminisme, parce que voilà, il y a cette volonté de garder le pouvoir qui est effectivement importante. Après, c'est toujours difficile de répondre à cette question autrement que comme ça. Mais
n'y a-t-il pas aussi, quelque part, eu un problème d'organisation dans les collectifs, dans les organisations féministes ?
On pourrait le dire aussi du mouvement socialiste. Enfin, on pourrait le penser de toutes les formes d'organisation qui sont des organisations par en bas, entre guillemets. En tout cas, des mouvements dans lesquels des femmes dans leur diversité, des personnes dans leur diversité ont choisi de faire corps, de faire mouvement, de militer ensemble. Alors il y a des divisions et des distinctions au sein du mouvement féministe, mais qui sont propres là aussi à n'importe quel mouvement. Et c'est même normal, et alors je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas... c'est important que puissent s'exprimer les tensions, les différences. Et pour autant, c'est quand même un mouvement qui est fort, qui était déjà fort à la fin du 19e siècle. Christine Barre le montre bien, qui est fort dans les années 70, qui est fort toujours aujourd'hui. Et donc, c'est quand même un mouvement qui... a permis de gagner un certain nombre de choses. Je pense que la situation, là aussi, les droits qui ont été acquis grâce au mouvement féministe ont été acquis grâce au mouvement féministe. C'est l'action des mouvements féministes qui a permis ça, qui a permis d'acquérir ces droits. Donc il faut les continuer, bien sûr, il faut les préserver, il faut les défendre, mais des droits ont quand même été acquis.
Conscience bien-aimée, chargée de médiation scientifique à la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société de Lille.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la conférence qui est organisée aujourd'hui ?
Alors, la conférence d'aujourd'hui donc, porte sur un ouvrage de Christine Barre, « Féminisme 150 ans, on y a des reçus ». Et elle est organisée dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle « Printemps des sciences humaines et sociales ». C'est la 16e édition cette année.
Si on a besoin d'informations sur votre association, où est-ce qu'on peut trouver ça ?
Alors, il suffit d'aller sur le site qui s'appelle www.meshs.fr.
Nous étions à la conférence débat organisée par la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société de Lille avec Christine Barre, historienne française, spécialiste de l'histoire des femmes, du genre, du féminisme, à Sciences Po Lille pour son livre « Féminisme ». 150 ans d'idées reçues. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Retrouvez toute la musique que j'aime, un projet artistique de territoire sur Radio Campus. Une série d'émissions réalisées en direct et en public à Villeneuve-d'Ascq. Toute la musique que j'aime est une aventure qui donne la voix aux habitantes et aux habitants d'un quartier à travers 5 émissions diffusées aux 4 coins de la ville. Rejoignez-nous pour la dernière émission le 21 juin à partir de 17h à la maison de quartier Pasteur. Au programme balade sonore, repas convivial, performances musicales et rencontres inédites. Des émissions proposées par l'Amicale, coopérative de projets vivants,
en partenariat avec la Ferme d'en Haut et dans le cadre d'un contrat ville avec la ville de Villeneuve-d'Ascq.
Je veux partir vers d'autres horizons. Je veux m'enfuir, on connaît trop mon nom. Mon âme brûle quand je reste là. On me murmure que ce n'est pas le bon choix. Le petit train des allers-retours. 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 Paris-Strasbourg, je quitte les miens avec mon sac à main. Des au revoir sur le quai de la gare. 4 heures de train avant l'arrivée. Le temps de rêver, le temps de rêver. Le petit train des allers-retours. 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 Paris-Strasbourg, un petit casse-dalle au wagon-restaurant. Par le hublot, la fenêtre, mes souvenirs. L'accéléré, enfin arrivé, on va se quitter. Tu vas repartir, merci de m'avoir déposé. Toi le petit train des allers-retours. 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 Peut-être un jour.
Lentement l'eau a commencé à monter et les résistances à chauffer. Non, je t'ai plus, la cuve est pleine. Je m'égosille à perdre haleine. Me voilà dans de sales draps qui viendra me sortir de là. Je suis tombé dans la machine à laver. Sont si gloutons qu'ils me boufferaient pour de bon. Je suis tombé dans la machine à laver. J'ai beau appeler au secours, dans l'inox personne ne m'entend crier. Sous les roulements du tambour, elle n'y entendait ma prière. Je vous supplie de revenir trop quelqu'un. C'est un calvaire en vérité, je suis complètement lessivé. Je suis tombé dans la machine à laver. Me voilà propre assurément. J'aurais aimé éviter de me frotter à cette armée de détergents. Par le hublot, je regarde tourner la terre. Je me presque en apesanteur, j'en vois de toutes les couleurs. Je suis tombé dans la machine à laver. Si j'ai subi quelques dommages, il y a au moins une chose pour me consoler. J'ai pas retourné sur la page. Au désespoir, pourquoi me suis-je laissé choir? Je suis tombé dans la machine à laver.
Je suis Emmanuelle Hardy, directrice du patrimoine et de la logistique, et donc je vais avoir le plaisir de vous mener dans les dédales de notre site du centre de recherche pour qu'on puisse vous faire visiter donc, les 6 opérations qui ont été réalisées depuis 3 ans. Donc, comme nous sommes assez nombreux, je vous remercie si c'est possible d'être assez compact pour qu'on ne puisse pas se perdre les uns les autres, puisqu'on a parfois cherché des personnes qui étaient perdues depuis 3 jours sur notre site. Hein, donc, on vous remercie de bien nous suivre. Voilà, donc je vous laisse me suivre. Et puis, juste avant, pour vous présenter un petit peu le centre de recherche dans lequel on se trouve. Donc, c'est un site qui date de 1976, qui a été créé par monsieur René Dautelonde.
Fierté des Hauts-de-France, Université de Technologie de Compiègne modernise ses pôles mécaniques et chimiques. Un chantier soutenu par la région Hauts-de-France à hauteur de 2 millions d'euros et soutenu par l'Europe, inauguré le vendredi 23 mai. Emmanuelle Hardy, directrice du patrimoine et de la logistique à l'UTC, nous explique.
Le site du centre de recherche date du milieu des années 70 où la préoccupation principale n'était pas tournée autour de la performance énergétique. Et aujourd'hui, il y a un gros travail à faire sur notre site pour améliorer la performance énergétique de nos bâtiments. Donc on avait entamé ce processus-là avant France Relance, mais ça a été un énorme booster pour l'UTC pour réaliser des opérations d'envergure et marquantes pour vraiment faire en sorte qu'on améliore la performance de nos bâtiments, mais surtout et aussi, et c'est important de le noter, qu'on améliore le confort des usagers, parce qu'on pense souvent aux factures et c'est un point important, mais c'est aussi extrêmement important de noter que les travaux qu'on a réalisés permettent d'améliorer le confort d'hiver mais aussi d'été pour avoir des étés moins chauds, et on sait que plus ça va aller, plus il fera chaud dans nos bâtiments. Donc c'est une opération globale de France Relance qui a coûté 5,8 millions d'euros, la grande majorité ayant été financée par France Relance à hauteur de 4,4 millions d'euros. Et on va vous présenter aujourd'hui 2 opérations principales. Donc la première, c'est l'opération d'installation de 11 centrales de traitement d'air. En fait, avant, au centre de recherche, on n'avait pas de renouvellement d'air, ce qui pose un problème vis-à-vis du confort des usagers. On n'avait pas d'air renouvelé et qui, en termes d'homogénéité des températures, pose également des difficultés. Donc, il a été décidé d'installer 11 centrales de traitement d'air. Donc, vous en voyez une ici, mais vous êtes passé devant d'autres tout à l'heure. Elles sont soit au sol, soit en toiture terrasse, ce qui donne un aspect un peu Pompidou, Beaubourg à notre site du centre de recherche. Donc, voilà, on prend.
Un des temps forts de cette modernisation, la réhabilitation du bâtiment Dalton dédié à la chimie. Une nouvelle plateforme scientifique y voit le jour, au service notamment de l'équipe IMID, spécialisée dans la transformation des agro-ressources. Un projet en phase avec la stratégie bioéconomie des Hauts-de-France.
Ça a été une opération dont les travaux ont démarré en février 2022 et se sont terminés en 2023. C'était une opération qui a été complexe à mener parce qu'elle a été menée en site occupé. Donc toutes ces centrales de traitement d'air ont été posées alors que les occupants étaient dans les laboratoires, dans les couloirs, dans les bureaux. Donc il a fallu une sacrée adaptation de la part de nos usagers à déménager pendant quelques semaines, à faire du télétravail pendant quelques jours, pendant que les entreprises faisaient les travaux. Et ça a été aussi complexe pour les entreprises, pour eux aussi s'adapter aux contraintes très fortes qu'on a ici à l'UTC de par la présence de nos laboratoires. C'est un dispositif extrêmement complexe et très technique, donc effectivement ça demande beaucoup de réglages et d'affinements, et donc voilà, on arrive au bout de cette opération et on est heureux de vous la présenter aujourd'hui. Donc ici, voilà l'une des centrales de traitement d'air que vous entendez un petit peu, et effectivement il y a un ajustement à trouver entre la performance et la qualité de l'air renouvelé et le confort acoustique qu'il faut trouver.
Parmi les bâtiments réhabilités grâce au soutien du contrat de plan État-région et des fonds européens, le bâtiment P occupe une place stratégique. Désormais modernisé, il renforce les capacités de recherche de l'UTC en lien direct avec les grands enjeux industriels et sociétaux des Hauts-de-France.
Nous nous trouvons dans le bâtiment qui a été construit dans le cadre de l'opération du CPER. Hein, donc c'est un bâtiment qui a été appelé bâtiment Planck, Max pour Max Planck. Donc ce bâtiment, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est un bâtiment dans lequel il y avait une appréhension de la part des futurs usagers par rapport à un inconfort thermique, parce que vous voyez qu'il est très très vitré. Au final, il y a eu voilà, un très gros travail qui a été mené par l'équipe de maîtrise d'œuvre K-Architecture pour qu'on ait ce confort thermique. Et aujourd'hui, à la fois en hiver et en été, on se sent vraiment très bien dans ce bâtiment-là. Donc c'est un bâtiment qui a, comme pour le bâtiment précédent, une double vocation. Il a une vocation à la fois en matière d'enseignement. Derrière vous, vous allez trouver des salles d'enseignement. Et à la fois de la recherche. On est passé devant des salles blanches qui sont dédiées à la recherche.
Je crois qu'il y a 3 opérations de contrat de plan État-Région, plus de 5 millions de fonds européens qui ont été versés ici. À cela s'ajoutent 2 millions de la région des Hauts-de-France. Donc vous imaginez l'ampleur, c'est quasiment 50%, si je ne me trompe pas, je me tourne vers la directrice, mais de l'ensemble des travaux qui ont été faits ici pour l'UTC. Et je voudrais vraiment très sérieusement m'en réjouir, parce que sans les fonds européens, aujourd'hui, vous l'avez très bien redit, Monsieur Barigny, il y a peu de projets qui peuvent se faire, surtout dans l'enseignement supérieur et la recherche. Alors ici, vous portez un établissement remarquable. Il est connu en France, évidemment, mais encore plus à l'international. On a la chance d'avoir des ingénieurs qui sont reconnus dans le monde entier, qui viennent d'ailleurs du monde entier et qui nous permettent de rayonner l'Oise, la région Hauts-de-France, mais pas que, avec votre partenariat tourné vers Sorbonne Université également, et d'avoir un rayonnement très large pour l'ensemble de notre région, mais pas que.
Avec ces nouveaux espaces, l'UTC se dote d'équipements de recherche de haut niveau, pensés pour relever les défis industriels, environnementaux et sociétaux de demain, tout en offrant un cadre d'apprentissage optimal. Rénovation de l'UTC, un chantier qui répond aux enjeux de la région Hauts-de-France, un reportage de Juliette Carlier pour Radio Graphite.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
On devrait, s'écriait un jour le bon Angers, jeter tous les cocus au fond de la rivière. C'est fort bien dit, reprit sa ménagère, mais mon ami, c'est une AG.
Radio Campus, la radio qui ne vous mène pas en bateau. 106,6 en modulation de fréquence. www.campuslille.com sur la toile.
Je traîne les pieds maussades dans un énième défilé. Ça ressemble à une merguez partie. C'est beau, ok, je reste motivé, motivé, motivé. Encore une cause perdue, cernée, entourée de gens consternants. Oh, ça va, recto verso, vice versa. Si cette version ne te plaît pas, regarde, y'a du bleu devant, y'a du bleu derrière. Ah, tiens, salut, y'en a même à côté de moi. Allez, de A à B, puis de B à A. C'est le B à bas syndical, tout le monde rentre chez soi. Mais moi, je crois, ben je crois tes slogans, mais bon, j'y crois plus vraiment. De toute façon, on est des bulots, boulots ou autres mollusques qu'on fait crever en serrant le rang. Bon, admettons, je grossis le chiffre, bonne conscience, je rajoute ma brique. Mais bon, demain on sera 13 milliards pour les syndics et racines de pi pour les flics. Ah putain, tous ces commiettes qui se font la guéguerre. Putain, moi ça me fait gerber. Encore putain, ça qui chorale droit de bouffer le blé, alors qu'ils oublient qu'ils sont tous boulangers. Cynique, à mon âge, vois-tu, y'a de quoi se marrer ou chialer au choix. On n'a pas du tout bien m'expliquer. Et les pissenlits, je les ai entamés du mauvais côté. Ah tiens, ça frétille. En début de cortège, ça gigote en se bousculant. Ça crie, ça chouine enfin. De l'animation, c'est l'art marrant, je vais faire un tour devant. Barricade enflammée, les rues ensablées, puis de lacrymes hurlantes et de pavés volants. Enfin, ça sent le rue de militants, bam! J'ai vu tes yeux belles, je suis tombé dedans, bercé par le chant des sirènes. En amont, notre révolte dansante, je glisse ma menotte au creux de la tienne, sur le son des grenades, assourdissantes les flaques carmin. Vermeil peigne le balai, le tohu-bohu de ceux qui mettent leur rage en bouteille et rajoutent au goulot un morceau de tissu. Les chars de garde des vautours veulent nous déchirer. Oh, ma reine héritée, je m'excuse mon amour car je sais que mes écarts lacrymogènes. Mi-Louise, mi-Cher, je suis gros qui prend sa prestance comme un communard. Les barricades comme nid d'amour, les uniformes seront affables. J'irai des pavés, des palaces, pour que les bleus restent de marbre.
Hé, hey, vous là-bas, passe si vite, le punk en état d'arrestation.
Moi, en garde à vue. Tu vas pas que je suis occupé, alors bouge ta race et oublie pas d'aller te faire
encastré. Entre ton voix et bouclier, nous effleurons ces beaux hommes casqués. Force de l'ordre ou gardien de la paix, quand les kamikazes de la fraternité sur le ramdam joue du talon jusqu'à broyer de la coquille. C'est sur moi, l'insurrection même en moi se ravagera vachonné. Ni Louise, ni Michel, je suis gros qui vend sa prestance comme un connard en action. Oh ma belle, oh mamie, je t'offrirai un bouquet de bleusailles pour embellir notre swing collusion. Sereinement sous le bandana fumant pour faire fondre ces fausses infos dont vous êtes follement friands. Ceux que vous appelez déviants ou barbares, violents criards sont les homos, ça sert face aux cerbères qui saignent les foulards. Mais que nos vies valent-elles? Que dalle, pensez-vous qu'ils n'ont à battre des états d'âme des automates? Génération jetable à l'avenir, déjà crachée, marginale ou précaire qu'une question. Longueur de cordée assez d'être écarquillée devant les écarquillas, ça cesse d'être éparpillé. Se rendre visite qui t'a frié des vitalisations. Déjà un pied dans le tombeau social, valse avec les balles ne ferait qu'en faire rougir la dalle. Alors sous les cagoules ne se cache pas des salopards flics armés, les humiliés, révoltés ayant trouvé comme un étendard, il se risque à l'ultime assaut, flairant la mort ou le cachot, brûlant au fond des naseaux, libéré des rôles vassaux. Ils changeront le scénar sans passer par les doléances, grenades contre lance pierre. Mais dis-moi, où est la violence? Mi Louise, Michel, je suis gros qui pense à prestance comme un communard.
Chaque fois qu'éjacule le fascisme ordinaire, celui qui rend le sourire aux actionnaires terrorisés par les anarcho-autonomes qui voudraient libérer les déviants du génome. On voit disparaître le plaisir de l'instant remplacé illico par la terreur d'un présent et d'un futur qui se rêvent au passé privé des imprévus qui les font angoisser. Torride passion qui toujours aboutissent au plus profond de bien étranges abysses. L'amour de la mort et la mort du père, alors qu'enfin soumis, les vaincus désespèrent. Serviles supplétifs forgeant leur propre chaîne, il ne faut pas compter sur eux. Pour la prochaine, la révolution, ou même la révolte, comme ils ne sèment plus, le néant les récolte. Rien n'a changé, ni les mots, ni les choses. L'Atalante affronte encore les mêmes névroses. La voix de son maître admire extatique la médiocrité d'une fiction pathétique. Comme l'impuissance règne, il faut brasser de l'air et flagorner le peuple pour noyer sa colère. L'identité du clan devient l'unique urgence. Les parades aux parades et promettent la vengeance. Répandent la vérité cathodique, à grand coup d'unité, de bruit médiatique, ils renforcent encore l'ignorance disponible, transplantant l'imposture dans le cœur de leur cible, naïfs bâtissant les murs de leur prison, fiers d'être devenus leur propre maton, les aliénés dociles tournent en rond et au pas dans des cellules grises dont on ne s'évade pas. Décrire ces charognards qui racolent, les losers exsangues, abrutis par la picole, le cerveau vitrifié par les psychoactifs. Devant un tel cynisme, je manque d'adjectifs. Ces dealers d'illusions, collabos du système et leurs marionnettes, psalmodiant l'anathème, se croient illégalistes quand ils sont l'attraction produite par la police et par la réaction. Se prétend ouvrière dans la bouche mythomane de hâbleurs bipolaires. Les rebelles factices cachent derrière leur profil des amours refoulés de poseurs homophiles. La haine de soi se regroupe en tribus qui parle fort des exploits qu'elle s'attribue. Pourtant, c'est le suicide qui guette solitaire ces clones décérébrés par la logique militaire. Je dis non, je ne renonce pas, me taire serait laissé croire que je ne juge pas, la conscience s'éveille avec la révolte, celle qui concrétise la colère qu'on récolte. Mais si penser c'est déjà désobéir, de seules intentions ne permettent pas d'agir, il manque encore le courage et l'intelligence qui nous donneront la force de répondre à l'urgence. En choisissant la vie contre le sacré, c'est avec joie que nous allons blasphémer, nous délivrer de Dieu pour délivrer le monde et détruire les gamètes de la bête immonde. Ce n'est pas seulement la vie que nous voulons, c'est également son sens et ses raisons. Et que je sois une femme ou un homme, je me révolte. Donc nous sommes...